Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Il évoque la nouvelle politique étrangère états-unienne sous les démocrates. En résumé, Joe Biden compte reprendre l'orthodoxie qui prévalait depuis la présidence de George Bush père au début des années 1990. Mais tout d'abord, Jean-Claude Labrec, membre de l'équipe, nous parle des médias sociaux et de la censure qu'ils peuvent exercer. Le cas le plus emblématique est celui de l'ancien président Donald Trump, interdit de Facebook et de Twitter, entre autres. Au nom de quel principe l'est-il? Et les médias traditionnels peuvent-ils constituer un modèle de pratique des libertés d'expression et d'information? Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Gros sujet?
Bah oui, je pense, mais je pense que c'est un sujet majeur dans une société démocratique, de savoir que la liberté, non seulement d'opinion, mais la liberté d'expression existe et que, bon, bien sûr, il y a des obligations qui viennent avec, elle est encadrée, mais que tout à coup, une compagnie privée décide, elle, qui a accès à la place publique, qui n'y a pas accès, qui on retire de la place publique. C'est un peu... Mettons que c'est un peu inorthodoxe. Ce n'est pas de la façon de faire dans les sociétés démocratiques. En tout cas, pas de ce que j'ai vécu, j'ai lu, que j'ai vu, etc., de toute ma vie. Donc, essentiellement, si on se résume un peu, là, c'est que, comme vous le disiez en introduction, Twitter a suivi le mouvement et a décidé de suspendre plusieurs comptes en relation avec la mouvance conspirationniste américaine, le QAnon, vendredi 8 janvier, dont celui de Donald Trump. Et je rappelle qu'à ce moment-là, Donald Trump était toujours un président en exercice. Et Twitter nous avait simplement dit par communiqué qu'après examen approfondi des tweets récents de Donald Trump et du contexte actuel, nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence. Cette suspension, comme celle de Facebook, évidemment, avait été applaudie à plusieurs endroits comme étant « enfin, on va faire taire M. Trump », etc. Mais M. Trump a évidemment réagi avec... on s'attendait effectivement à ce qu'il réagisse. Il a réagi en accusant Twitter de museler la liberté d'expression, ce sur quoi je crois il a raison, et avec l'aide, évidemment, des démocrates et de la gauche radicale. Bon, cette suspension, comme on l'évoquait en tout début, elle pose une question fondamentale quant à la liberté d'expression et, bien sûr, quant à son encadrement dans une société démocratique.
Jean-Claude, ça rappelle une phrase de Voltaire, je ne sais pas si je la cite à propos, mais il disait une chose, et d'ailleurs on le cite souvent pour cela, je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour vous donner le droit de le dire, même si je ne le partage pas. Est-ce qu'on est un peu dans ce genre d'attitude?
Je pense que l'attitude de Twitter n'est pas la bonne, sûrement, elle n'est pas celle qui évoque Voltaire, mais je pense que là-dessus, Voltaire a tout à fait raison. Parce que la liberté d'expression, bien sûr qu'elle a des implications. Mais tu sais, qu'on soit dans les fake news, dans les mensonges, dans la diffamation, dans la pression, comme on connaît actuellement dans les universités, la pression sur certaines personnes ou groupes pour restreindre, voire censurer les mots dans les universités ou dans l'espace public, il y a de quoi s'interroger. Est-ce que c'est un retour à une forme de très grande noirceur, de censure, mais une censure au nom de qui et au nom de quel principe et au nom de quelle valeur? Est-ce que c'est fondamentalement l'impression que ça me donne, c'est qu'on est dans une fragilisation majeure de la démocratie, et comme vous l'évoquiez, par opposition à ce que venait de dire Voltaire, on semble être dans un moment où t'es pas d'accord, t'es pas de mon opinion, mais on va te faire taire, t'as pas le droit de parler.
Pardonnez-moi, Jean-Claude, mais vous parlez de démocratie, je suis d'accord avec vous, on se pose la question du principe au nom duquel on peut faire taire quelqu'un ou pas, mais il y a une chose qui apparaît évidente, c'est qu'une démocratie n'est pas une démocratie où ce sont des victimes qui se réunissent pour faire citer. Là, il y a beaucoup de gens qui, dans leur ressenti ou dans leur histoire réelle, ont été victimes de X, Y, Z,
Oui.
Et réclame réparation. Alors, on a d'un côté la morale ou la réparation, et d'un autre côté, ben, la citoyenneté avec, qui vient avec des droits et des obligations. J'ai l'impression qu'on est en train de confondre deux niveaux, là.
Oui, effectivement, j'ai un peu la même impression que vous, c'est-à-dire que parce que j'ai été victime, donc j'ai le droit de vous faire taire.
Voilà.
Autrement dit, j'ai le droit de vous dire, vous ne parlez plus de tel sujet, parce que j'en suis victime. Alors que sur le fond, je pense qu'il faut il faut continuer d'en parler, mais il faut continuer d'en débattre. Et bien sûr que jusqu'à la fin, tout le monde ne sera pas de la même opinion, tout le monde n'arrivera pas, on n'arrivera pas à un consensus où tout le monde partage exactement la même opinion, mais on risque de faire avancer le débat. Écoutez, j'ai envie de vous donner un exemple qui va vous sembler peut-être un petit peu bête. Ma fille nous disait hier dans une discussion, je ne sais plus à quel propos, mais elle évoquait la question par exemple, du racisme.
Oui.
Et elle nous disait, j'ai entendu un animateur qui est effectivement un animateur noir qui disait, peut-être qu'on devrait débattre du racisme, mais peut-être qu'on devrait cesser de ne parler que des choses qui sont arrivées, qui étaient malheureuses. Peut-être qu'on pourrait commencer à parler d'exemples qui sont des exemples heureux et non pas seulement des exemples malheureux. Ça réfère un peu à la même... C'est un autre problème dans lequel on est coincé, puis si on le débat par un bout, ben on crée des tensions, puis si on refuse de le débattre, on crée des tensions, donc on est un peu coincé, quoi. Tout ça pour revenir... Oui?
Mais pardonnez-moi, mais des bonnes choses liées au racisme
C'est-à-dire pas les bonnes choses, mais les actes positifs de personnes, par exemple, de couleur, au lieu qu'on ne parle que des mauvais coups que certaines personnes de couleur ont fait. C'est dans ce sens-là
qu'une victime n'est pas que victime. Elle n'est pas 100% victime dans son ADN ou dans son histoire.
Voilà, exactement.
Je comprends. Donc, mais alors, écoutez, de toute façon, quand on parle de liberté d'expression, Jean-Claude,
oui.
On parle liberté dans un espace public, forcément.
Oui.
On n'est pas dans le vide.
Non,
et
pas
l'espace
du tout.
L'espace public, comment le définissez-vous? Comme un bien commun, comme un... Juste un type de liquide dans lequel tout le monde nage pour communiquer. Et comment est-ce qu'on peut définir
dans mes mots à moi, l'espace public, c'est ce qu'on appelait avant, pas si longtemps, ce qu'on appelait la place publique.
Voilà.
Ce qu'on appelait aussi chez les Grecs, etc., ce qu'on appelait aussi l'agora, la place publique.
Oui.
Donc, la place publique, et moi, quand j'étais enfant, la place publique, c'était généralement devant l'église, parce qu'on était une société religieuse, etc. C'était là que les gens débattaient, etc., causaient. Bon, au fil du temps, tout ça a évolué, puis la société a changé, puis on s'est mis à avoir plus de médias, avoir plus d'espace où débattre, mais autrement que sur une place physique qui était devant une église ou devant n'importe quel endroit. Et donc, l'espace public, c'est essentiellement ce qu'on appelait avant la place publique, mais pour référer à toute la dimension, à la fois qu'on peut utiliser par l'électronique, etc. Bon, maintenant, les médias, même les médias d'information, vous pouvez les avoir par électronique, comme vous pouvez les avoir format papier, pour ceux qui existent encore, là, dans le cas des journaux. Mais ceci étant dit, donc, la place publique, donc, il y a une liberté d'expression dans la place publique, mais on n'a pas seulement un droit. C'est un droit qui est assorti de responsabilité. Parce que, comme vous l'évoquiez, l'espace public, elle induit tous les citoyens. Donc, c'est un espace commun, c'est un bien commun. Donc, la liberté d'expression, si vous voulez, exprimer ses opinions, implique aussi ça, la reconnaissance des faits, la reconnaissance des faits actuels, mais des faits passés. Mmh. Et ça implique aussi l'absence d'intimidation, de haine ou d'appel à la violence à l'endroit des autres, par respect pour eux. Donc, qu'on soit dans l'absence de tentatives d'intimidation, ou de haine, ou d'appel à la violence contre les autres personnes. Donc, tout ça, pour toutes ces raisons-là...
Jean-Claude, mais dans l'Agora, il y a aussi des... Oui, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Jean-Claude, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Mais dans l'Agora, il y a aussi des... L'homme, il n'y a pas d'hommerie sans homme, comme il n'y a pas de femmerie sans femme. Je veux dire, chacun veut tirer la couverture de son côté. Vous demandez à ce que l'espace public soit vraiment rempli de gens disciplinés, rationnels, respectueux. Ça ne court pas les rues, quand même. Il y en a beaucoup, mais il y en a moins qu'on voudrait qu'il y en ait.
C'est la raison pour laquelle, si on regarde du côté, par exemple, des médias d'information traditionnels,
oui.
Bon, tantôt, je référais aux journaux, mais que ce soit les radios d'information traditionnelles, les télés d'information traditionnelles, mais je dis volontairement les médias d'information par opposition à des médias sociaux. Les médias d'information, ils ont effectivement une responsabilité majeure parce qu'ils sont partie de l'espace public. Ils sont, d'une certaine manière, l'endroit d'espace public où on s'exprime.
Effectivement.
Et donc, par objectivité et honnêteté, ces médias d'information doivent rapporter des opinions contraires et différentes, mais ils doivent surtout rectifier les faits, condamner l'intimidation et les appels à la haine et à la violence, afin d'annihiler la confusion et afin de faire percer les faits, la vérité des faits. Si vous voulez, la liberté d'expression est d'une certaine manière une obligation collective qui souligne notre interdépendance les uns des autres.
Mais Jean-Claude, pardonnez-moi, mais je veux dire, il y a cette phrase de Pascal, Blaise Pascal, du 7e siècle, qui disait que vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Pour lui, c'était la France et l'Espagne à l'époque. Je veux dire, moi, Québécois, je vois le monde comme ceci, ou telle question qui me touche comme ceci. Mais mon vis-à-vis d'Ontario, ou de je ne sais pas trop où, voit la même chose. Lit l'histoire d'une autre façon. Alors, comment voulez-vous qu'on soit dans l'objectivité quand on parle notamment des médias d'information?
En fait, il faut d'abord qu'on soit dans l'honnêteté, fondamentalement.
Ça, c'est vrai.
Qu'on soit dans des faits qui ont été vérifiés, qu'on contre-vérifie, qu'on s'assure qu'on n'est pas dans l'opinion. Quand on rapporte les faits, on rapporte les faits de façon factuelle.
C'est juste.
Et donc, de manière à ce que tout ça devienne, si vous voulez, que l'information soit une information exacte, qu'elle soit vérifiée, qu'elle soit équitable, qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit intègre et impartiale. Et d'une certaine manière, qu'elle prenne en compte les différents... Comment je vous dirais donc? Vous disiez, sur un événement X, une situation X, je suis un Québécois, puis l'autre, l'Ontarien, une autre vision de la même réalité. Bien sûr, donc qu'on prenne en compte chacune des visions et qu'on les confronte à terme. Et bien sûr qu'à partir du moment où je suis installé, moi, face à l'Est, puis vous êtes face au Nord, bien, on n'a pas la même lecture du paysage. On n'a pas la même... Mais ça ne veut pas dire que votre lecture est fausse, que la mienne est fausse. Ça veut dire que ces deux lectures se complètent à terme. Donc, tout ça pour revenir les médias, ils font un devoir de respecter les règles qu'on a évoquées tout à l'heure, là, l'exactitude, la vérification, l'équité, l'équilibre, l'intégrité et l'impartialité. Mais au Canada, précisément chez nous au Canada, il y a certaines lois en plus qui encadrent le travail des médias. Et du côté du CRTC, pour ce qui est des médias électroniques, le CRTC, lui, a la responsabilité de déterminer un certain nombre de règles pour les médias électroniques, mais avec une attention particulière pour les médias d'information électronique. Et en plus, chez nous au Québec, vous avez le Conseil de presse, qui évidemment est un organisme qui n'est pas coercitif, mais qui joue un rôle important dans le respect de la liberté d'information et la liberté liberté d'expression. Et aussi, vous avez la Fédération régionale des journalistes qui joue sur le plan professionnel un rôle très important.
Ça, c'est bon pour les médias traditionnels, on comprend. Ils sont constitués, on peut les identifier, il y a une maison d'édition, il y a un lieu, etc. Donc, mais les médias sociaux sont informes. C'est des compagnies privées, je veux bien, c'est informe, c'est tentaculaire. Comment voulez-vous qu'on applique ce que vous dites pour les médias traditionnels aux médias Twitter, Facebook et tout ça?
Avant d'aller là, j'aimerais juste qu'on apporte quelques précisions, puis après ça, on s'en inspirera. Je vous dirais que la libre circulation de l'information dans notre société démocratique constitue une des plus importantes garanties de la liberté et de la démocratie, et que la liberté de presse découle, elle, des libertés fondamentales de pensée, de parole, d'expression et d'opinion, qui sont reconnus juridiquement au plan national et international, et que nul ne peut dicter aux médias le contenu de l'information. Donc, la question du contrôle des médias sociaux se pose avec d'autant plus d'actualité dans la foulée de ces décisions de Twitter et de Facebook qui ont voulu interdire à des personnes de s'exprimer. Ces médias sociaux, je rappellerai par ailleurs que ces médias sociaux, depuis leur création, Ils ne se sont pas conduits comme des citoyens corporatifs modèles, soucieux de respecter les règles des sociétés dans lesquelles ils agissent. Mm-hmm. Ils contournent les règles du fisc, ils s'approprient le contenu des médias d'information sans dédommager ces derniers, ils se sont accaparés tout le marché publicitaire à toutes fins utiles, ils refusent toute responsabilité éditoriale des contenus qu'ils diffusent, sauf que jusqu'à récemment, ils ont commencé à émettre inscrire quelques avertissements sur certains contenus, mais qui continuaient de diffuser. Mmh. Et au moment de l'attaque du Capitole à Washington, ben, ils ont décrété l'interdiction du propos de Donald Trump, qui était, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, toujours président. Mais donc, mais de quel droit une corporation privée peut-elle décider des personnes et des contenus qui ont accès à l'espace public, comme on l'évoquait en tout début?
Ce sont des corps transnationaux, je veux dire, ce sont des corps... Si je vous comprends bien, Jean-Claude Abrec, il nous reste 5 minutes, si vous voulez.
Ouais.
Ils agissent un peu comme un empire dans l'empire.
Voilà.
Décrocher des lois qui régissent le fonctionnement de la circulation de l'information et de la liberté d'expression.
Ils semblent se foutre à peu près de toutes les lois, et comme de toutes les lois en termes de fisc, d'impôts, etc. Ils font en sorte d'être au-dessus de ça. Comme s'ils étaient des créatures qui étaient, je sais pas moi, qui nous venaient, je ne sais pas où, mais qu'ils étaient au-dessus de tout, qu'ils n'avaient pas à respecter aucune règle. Autrement dit, si vous voulez, au Canada, par ailleurs, bon, on a commencé à être sensibilisé à ce problème-là depuis un certain temps, comme dans plusieurs pays, dans tous les pays européens ou à peu près, et dans d'autres pays à l'autre bout du monde. Et au Canada, le gouvernement fédéral étudie actuellement différentes options pour créer, entre guillemets, là, un nouveau chien de garde du web afin de lutter contre le contenu haineux en ligne, les contenus haineux en ligne. Donc, et on pense actuellement à mettre en place des amendes, des peines de prison, de l'interdiction de diffusion au Canada, etc., etc. Ottawa songerait, si vous voulez, à faire payer les géants du web afin de financer le fonctionnement de ce nouvel organisme de réglementation. Ce régulateur-là, si vous voulez, serait responsable de s'assurer que les grandes et les petites entreprises sur Internet ne permettent pas la diffusion sur leur plateforme de discours haineux, d'incitation à la violence, d'agression sexuelle, de pornographie juvénile ou de matériel intime diffusé sans consentement.
Est-ce que les fausses accusations de viol qui sont légion, est-ce que les fausses accusations d'inceste, il y a quand même, dans ce torrent, je pense à moi aussi, mais il y en a d'autres aussi qui ont vu le jour, il y a des vraies victimes là-dedans, je reviens à la victime, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout et qui peuvent ruiner des carrières. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans le collimateur d'Ottawa?
Oui.
Les faux témoignages, les fausses accusations.
Oui, tout ça rentrerait dedans. Donc, si vous voulez, il y aura un projet de loi qui va être déposé dans les prochaines semaines. On verra, on verra de quelle couleur il sera. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'Ottawa s'intéresse beaucoup, en préparant ce projet de loi, au modèle australien et européen, là où les entreprises récalcitrantes ou récidivistes seraient passibles d'amende jusqu'à 10 % de leur revenu annuel et de peine de prison qui pourrait aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour leurs dirigeants.
On rit plus.
Non, on rit pas du tout. Mais actuellement, ce qui est important de savoir, c'est que donc le gouvernement australien travaille sur ce projet-là, a commencé à déposer les premiers éléments d'un projet de loi, en fait un avant-projet de loi, si vous voulez. Et Facebook, hier, pour ne pas le nommer, Facebook, hier mercredi, a annoncé qu'il restreignait en Australie le partage des contenus journalistiques en raison d'un projet de loi qui va forcer les grandes plateformes à rémunérer les médias en fonction du trafic que les titres génèrent. Autrement dit, il voudrait obliger les médias, ces médias sociaux, à payer les médias traditionnels pour l'information qu'ils sont allés chercher sur les médias traditionnels, ben, les payer en fonction du trafic que ces titres-là génèrent sur leur web, sur Facebook, par exemple.
Il était temps, Jean-Claude, non?
Ben oui, mais là, cette restriction touche aussi les pages des... Et Facebook, il va assez violemment. Et cette restriction-là touche aussi les pages des services de secours australiens. Autrement dit, ils ont bloqué les pages de secours australiens.
Donc, en une minute.
ça vous donne un peu une idée de la morale et de l'éthique de ces entreprises-là. Mais je veux juste rajouter que le gouvernement australien ne semble pas vouloir se laisser intimider. Il a annoncé qu'il poursuivait son projet d'encadrement législatif. Je vous dirai en une minute que, grosso modo, ici au Canada, lors de la dernière campagne électorale, les libéraux avaient promis qu'ils allaient agir en ce sens-là pour limiter la violence en ligne, etc., sur les médias sociaux. Les émeutes à Washington ont ajouté une pression supplémentaire sur le gouvernement de Justin Trudeau, donc c'est probablement la raison pour laquelle ils ont accéléré le projet. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on commence à s'inspirer du modèle des médias d'information quant à la liberté d'expression et la liberté d'information pour encadrer les médias sociaux, ces citoyens corporatifs dits personnes morales. Voilà. Je pense que ce serait un bon point.
En effet, oui. Espérons que les libéraux passent de des intentions aux gestes, ce qui n'est pas... Ils ne sont pas très connus pour ça, ces temps-ci.
Et puis surtout qu'on est près d'une élection, j'espère qu'ils vont le faire avant, parce que s'ils ne le font pas avant l'élection...
Ils le feront jamais.
Ça veut dire que on est reporté, peut-être pas au calendrier grec, mais au moins 2-3 ans encore.
Voilà, Jean-Claude Breck, membre de l'équipe. Merci beaucoup, vous nous parliez des médias sociaux et de la censure. On vous retrouve dans 2 semaines.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Jean-Claude.
Bye-bye.
À venir sur les ondes de Radio-VM, la nouvelle politique étrangère états-unienne. On revient après la pause. Restez avec nous.